Chapitre 11, le muscadin, le chevalier de Maison Rouge, la patrouille. Il y avait 2 heures à peu près que les événements que nous venons de raconter étaient accomplis. Lorrain se promenait dans la chambre de Maurice, tandis qu'Agésilas cirait les bottes de son maître dans l'antichambre. Seulement, pour la plus grande commodité de la conversation, la porte était demeurée ouverte, et dans le parcours qu'il accomplissait, Lorrain s'arrêtait devant cette porte et adressait des questions à l'officieux. « Et tu dis, citoyen Agésilas, que ton maître est parti ce matin ?»« Oh, mon Dieu, oui. À son heure ordinaire, 10 minutes plus tôt, 10 minutes plus tard, je ne saurais trop dire. Et tu ne l'as pas revu depuis ?»« Non, citoyen. » Lorrain reprit sa promenade et fit en silence 3 à 4 tours, puis s'arrêtant de nouveau. « Avait-il son sabre ? » demanda-t-il. « Oh, quand il va à la section, il l'a toujours. »« Et es-tu sûr que c'est à la section qu'il est allé ?»« Il me l'a dit, du moins. »« En ce cas, je vais le rejoindre, » dit Lorrain. « Si nous nous croisions, tu lui diras que je suis venu et que je vais revenir. »« Attendez, » dit Agésilas. « Oui, j'entends son pas dans l'escalier. »« Tu crois ? J'en suis sûr. » En effet, presque au même instant, la porte de l'escalier s'ouvrit et Maurice entra. Lorrain jeta sur celui-ci un coup d'œil rapide et, voyant que rien en lui ne paraissait extraordinaire, « Ah, te voilà enfin, » dit Lorrain, « je t'attends depuis 2 heures. »« Tant mieux, » dit Maurice en souriant, « cela t'aura donné du temps pour préparer des distiques et des quatrains. »« Ah, mon cher Maurice, » dit l'improvisateur, « je n'en fais plus. » Bah, mais le monde va donc finir. Ah, Maurice, mon ami, je suis triste. Toi, triste. Je suis malheureux. Toi, malheureux. Oui, que veux-tu? J'ai des remords. Des remords? Eh, mon Dieu, oui, dit Lorrain. Toi ou elle, mon cher, il n'y avait pas de milieu. Toi ou elle, tu sens bien que je n'ai pas hésité, mais vois-tu, Artémise est au désespoir. C'était son amie. Pauvre fille. Et comme c'est elle qui m'a donné son adresse, ah, tu aurais infiniment mieux fait de laisser les choses suivre leur cours. Ah oui, et c'est toi qui, à cette heure, serais condamné à sa place. Puissamment raisonné, cher ami. Et moi qui venais te demander un conseil, je te croyais plus fort que cela. Voyons, n'importe, demande toujours. Eh bien, comprends-tu, pauvre fille, je voudrais tenter quelque chose pour la sauver. Si je donnais ou si je recevais pour elle quelques bonnes torgnoles, il me semble que ça me ferait du bien. Tu es fou, Lorrain, dit Maurice en haussant les épaules. Voyons, si je faisais une démarche auprès du tribunal révolutionnaire. Il est trop tard, les condamnés. En vérité, dit Lorrain, c'est affreux de voir périr ainsi cette jeune femme. Ah, d'autant plus affreux que c'est mon salut qui a entraîné sa mort. Mais après tout, Lorrain, ce qui doit nous consoler, c'est qu'elle conspirait. Mon Dieu, est-ce que tout le monde ne conspire pas, peu ou beaucoup, par le temps qui court? Elle a fait comme tout le monde. Ah, pauvre femme. Ne la plains pas trop, ami, et surtout, ne la plains pas trop haut, dit Maurice, car nous portons une partie de sa peine. Crois-moi, nous ne sommes pas si bien lavés de l'accusation de complicité qu'elle n'ait fait tâche. Aujourd'hui, à la section, j'ai été appelé Girondin par le capitaine des chasseurs de Saint-Leu, et tout à l'heure, il m'a fallu lui donner un coup de sabre pour lui prouver qu'il se trompait. C'est donc pour cela que tu rentres si tard. Et justement. Mais pourquoi ne m'as-tu pas averti? Parce que dans ces sortes d'affaires, tu ne peux te contenir. Il fallait que cela se terminât tout de suite, afin que la chose ne fît pas de bruit. Nous avons pris chacun de notre côté ceux que nous avions sous la main. Et cette canaille-là t'avait appelé Girondin, toi, Maurice, impur? Eh, mordieu, oui! C'est ce qui te prouve, mon cher, qu'encore une aventure pareille et nous sommes impopulaires, car tu sais, Lorrain, quel est, au jour où nous vivons, le synonyme d'impopulaire, c'est suspect. Ah, je sais bien, dit Lorrain, et ce mot-là fait frissonner les plus braves. N'importe, il me répugne de laisser aller la pauvre Héloïse à la guillotine sans lui demander pardon. Enfin, que veux-tu? Je voudrais que tu restasses ici, Maurice, toi qui n'as rien à te reprocher à son égard. Ah, moi, vas-tu, c'est autre chose. Puisque je ne puis rien de plus pour elle, j'irai sur son passage. Ah, je veux y aller, ami Maurice, tu me comprends, et pourvu qu'elle me tende la main. Ah, je t'accompagnerai alors, dit Maurice. Impossible, mon ami, réfléchis donc. Tu es municipal, tu es secrétaire de section, tu étais mis en cause, tandis que moi, je n'étais que ton défenseur. On te croirait coupable. Reste donc, moi, c'est autre chose. Je ne risque rien, et j'y vais. Tout ce que disait Lorrain était si juste qu'il n'y avait rien à répondre. Va donc, lui dit-il, mais sois prudent. Lorrain sourit, serra la main de Maurice et partit. Maurice ouvrit sa fenêtre et lui envoya un triste adieu. Mais avant que Lorrain eût tourné le coin de la rue, plus d'une fois il s'y était remis pour le regarder encore, et chaque fois, attiré par une espèce de sympathie magnétique, Lorrain se retourna pour le regarder en souriant. Enfin, lorsqu'il eut disparu au coin du quai, Maurice referma la fenêtre, se jeta dans un fauteuil et tomba dans une de ces somnolences qui, chez des caractères forts et pour les organisations nerveuses, sont les pressentiments de grand malheur, car ils ressemblent au calme précurseur de la tempête. Il ne fut tiré de cette rêverie, ou plutôt de cet assoupissement, que par l'officieux qui, au retour d'une commission faite à l'extérieur, rentra avec cet air éveillé des domestiques qui brûlent de débiter au maître les nouvelles qu'ils viennent de recueillir. Mais, voyant Maurice préoccupé, il n'osa le distraire et se contenta de passer et repasser sans motif, mais avec obstination devant lui. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda Maurice négligemment. « Parle, si tu as quelque chose à me dire. » « Ah, citoyen, encore une fameuse conspiration, allez !»« Vraiment ?» répondit Maurice, en homme accoutumé aux 30 conspirations quotidiennes de cette époque. « L'Autrichienne a manqué de s'enfuir. »« Ah bah !» dit Maurice, commençant à prêter une attention plus réelle. « Et il paraît, dit Agésilas, que la veuve Capet avait des ramifications avec la fille Tison, que l'on va guillotiner aujourd'hui. Elle ne l'a pas volée, la malheureuse. » « Et comment la reine avait-elle des relations avec cette fille ?» demanda Maurice, qui sentait perler la sueur sur son front. « Par un œillet, imaginez-vous, citoyen, qu'on lui a fait passer le plan de la chose dans un œillet. »« Dans un œillet ? Et qui cela ?»« Monsieur le chevalier de... Attendez donc, c'est... Ah, c'est pourtant un nom fièrement connu, mais moi j'oublie tous ces noms. Un chevalier de château... Ah, que je suis bête, il n'y a plus de château. Un chevalier de maison... Maison rouge ? Ah, c'est cela. Impossible. Comment impossible ? Puisque je vous dis qu'on a trouvé une trappe, un souterrain et des carrosses. Mais non, c'est qu'au contraire, tu n'as rien dit encore de tout cela. « Ah, bien, je vais vous le dire, alors. Mais dis, si c'est un conte, il est beau, du moins. »« Ah non, citoyen, ce n'est pas un conte, tant s'en faut, et la preuve, c'est que je le tiens du citoyen portier. Ah, les aristocrates ont creusé une mine. Cette mine partait de la rue de la Corderie et allait jusque dans la cave de la cantine de la citoyenne Plumeau, et même elle a failli être compromise de complicité, la citoyenne Plumeau. Vous la connaissez, j'espère. » Oui, dit Maurice. Et après? Eh bien, la veuve Capet devait se sauver par ce souterrain-là. Elle avait déjà mis le pied sur la première marche, quoi. Ah, c'est le citoyen Simon qui l'a rattrapé par sa robe. Ah, tenez, on bat la générale dans la ville et le rappelle dans les sections. Entendez-vous le tambour, là? On dit que les Prussiens sont à Dammartin et qu'ils ont poussé des reconnaissances jusqu'aux frontières. Au milieu de ce flux de paroles, du vrai et du faux, du possible et de l'absurde, Maurice saisit à peu près le fil conducteur. Tout partait de cet œillet, donné sous les yeux de la reine et acheté par lui à la malheureuse bouquetière. Cet œillet contenait le plan d'une conspiration qui venait d'éclater, avec les détails plus ou moins vrais que rapportait Agésilas. En ce moment, le bruit du tambour se rapprocha, et Maurice entendit crier dans la rue « Grande conspiration découverte au temple par le citoyen Simon ! Grande conspiration en faveur de la veuve Capet découverte au temple !»« Oui, oui, dit Maurice, c'est bien ce que je pense, il y a du vrai dans tout cela, et Lorrain, qui, au milieu de cette exaltation populaire, va peut-être tendre la main à cette fille et se faire mettre en morceaux. Maurice prit son chapeau, agrafa la ceinture de son sabre et en deux bonds fut dans la rue. Où est-il? Se demanda Maurice. Sur le chemin de la conciergerie, sans doute. Et il s'élança vers le quai. À l'extrémité du quai de la Mégisserie, des piques et des baïonnettes, surgissant du milieu d'un rassemblement, frappèrent ses regards. Il lui sembla distinguer au milieu du groupe un habit de garde national et dans le groupe des mouvements hostiles. Il courut, le cœur serré, vers le rassemblement qui encombrait le bord de l'eau. Ce garde national, pressé par la cohorte des Marseillais, était Lorrain. Lorrain pâle, lèvres serrées, l'œil menaçant, la main sur la poignée de son sabre, mesurant la place des coups qu'il se préparait à porter. À deux pas de Lorrain était Simon. Ce dernier, riant d'un rire féroce, désignait Lorrain aux Marseillais et à la populace en disant « Ah, tenez, tenez, vous voyez bien celui-là, c'en est un que j'ai fait chasser du temple hier comme aristocrate, c'en est un de ceux qui favorisent les correspondances dans les œillets, c'est le complice de la femme Tison qui va passer tout à l'heure. Eh bien, le voyez-vous, il se promène tranquillement sur le quai, tandis que sa complice va marcher à la guillotine. » Et peut-être même qu'elle était plus que sa complice, que c'était sa maîtresse, et qu'il est venu ici pour lui dire adieu ou pour essayer de la sauver. » Lorrain n'était pas homme à en entendre davantage. Il tira son sabre hors de son fourreau. En même temps, la foule s'ouvrit devant un homme qui donnait tête baissée dans le groupe et dont les larges épaules renversèrent trois ou quatre spectateurs qui se préparaient à devenir acteurs. « Sois heureux, Simon, » dit Maurice, « tu regrettais sans doute que je ne fusse point là avec mon ami pour faire ton métier de dénonciateur en grand. Dénonce, Simon, dénonce, me voilà. »« Ma foi, oui, » dit Simon avec son hideux ricanement, « et tu arrives à propos. Ah, celui-là, dit-il, c'est le beau Maurice Lindet qui a été accusé en même temps que la fille Tison et qui s'en est tiré parce qu'il est riche, lui. » « À la lanterne, à la lanterne !» crièrent les Marseillais. « Oui, da, essayez donc un peu, » dit Maurice. Et il fit un pas en avant et piqua comme pour s'essayer au milieu du front d'un des plus ardents égorgeurs que le sang aveugla aussitôt. « Au meurtre !» cria celui-ci. Les Marseillais abaissèrent les piques, levèrent les haches, armèrent les fusils. La foule s'écarta effrayée. Et les deux amis restèrent isolés et exposés comme une double cible à tous les coups. Ils se regardèrent avec un dernier et sublime sourire, car ils s'attendaient à être dévorés par ce tourbillon de fer et de flammes qui les menaçait, quand tout à coup la porte de la maison à laquelle ils s'adossaient s'ouvrit, et un essaim de jeunes gens en habit, de ceux qu'on appelait les muscadins, armés tous d'un sabre et ayant chacun une paire de pistolets à la ceinture, fondit sur les Marseillais et engagea une mêlée terrible. « Hurrah !» crièrent ensemble Lorrain et Maurice, ranimés par ce secours, et sans réfléchir qu'en combattant dans les rangs des nouveaux venus, ils donnaient raison aux accusations de Simon. « Hurrah !» Mais s'ils ne pensaient pas à leur salut, un autre y pensa pour eux. Un petit jeune homme de 25 à 26 ans, à l'œil bleu, maniant avec adresse et une ardeur infinie un sabre de sapeur qu'on eût cru que sa main de femme ne pouvait soulever, s'apercevant que Maurice et Lorrain, au lieu de fuir par la porte qu'il semblait avoir laissée ouverte avec intention, combattaient à ses côtés, se retourna en leur disant tout bas « Fouillez par cette porte, ce que nous venons de faire ici ne vous regarde pas ». Et vous vous compromettez inutilement. » Puis, tout à coup, en voyant que les deux amis hésitaient, « Arrière » cria-t-il à Maurice, « pas de patriotes avec nous. Municipal Lindet, nous sommes des aristocrates, nous. » À ce nom, à cette audace qu'avait un homme d'accuser une qualité qui, à cette époque-là, valait sentence de mort, la foule poussa un grand cri. Mais le jeune homme blond et trois ou quatre de ses amis, sans s'effrayer de ce cri, poussèrent Maurice et Lorrain dans l'allée, dont ils refermèrent la porte derrière eux. Puis ils revinrent se jeter dans la mêlée qui était encore augmentée par l'approche de la charrette. Maurice et Lorrain, si miraculeusement sauvés, se regardèrent étonnés, éblouis. Cette issue semblait ménagée exprès. Ils entrèrent dans une cour et, au fond de cette cour, trouvèrent une petite porte dérobée qui donnait sur la rue Saint-Germain-l'Auxerrois. À ce moment, du pont au change déboucha un détachement de gendarmes qui eut bientôt balayé le quai, quoique de la rue transversale où se tenaient les deux amis, on entendit pendant un instant une lutte acharnée. Il précédait la charrette qui conduisait à la guillotine la pauvre Héloïse. « Au galop !» cria une voix. « Au galop !» La charrette partit au galop. Lorrain aperçut la malheureuse jeune fille, debout, le sourire aux lèvres et l'œil fier, mais il ne put pas même échanger un geste avec elle. Elle passa, sans le voir, auprès d'un tourbillon de peuple qui criait « À mort, l'aristocrate, à mort !» Et le bruit s'éloigna, décroissant et gagnant les Tuileries. En même temps, la petite porte par où étaient sortis Maurice et Lorrain se rouvrit, et trois ou quatre muscadins, les habits déchirés et sanglants, sortirent. C'était probablement tout ce qui restait de la petite troupe. Le jeune homme blond sortit le dernier. « Hélas, dit-il, cette cause est donc maudite !» Et jetant son sabre ébréché et sanglant, il s'élança vers la rue de Lavandière. Maurice se hâta de rentrer à la section pour y porter plainte contre Simon. Il est vrai qu'avant de se séparer de Maurice, Lorrain avait trouvé un moyen plus expéditif, c'était de rassembler quelques Thermopyles, d'attendre Simon à sa première sortie du temple et de le tuer en bataille rangée. Mais Maurice s'était formellement opposé à ce plan. Hein, « Tu es perdu, lui dit-il, si tu en viens aux voies de fête. Écrasons Simon, mais écrasons-le par la légalité. Ce doit être chose facile à des légistes. » En conséquence, le lendemain matin, Maurice se rendit à la section et formula sa plainte. Mais il fut bien étonné quant à la section, le président fit la sourde oreille, se récusant, disant qu'il ne pouvait prendre parti entre deux bons citoyens animés tous deux de l'amour de la patrie. « Bon, dit Maurice, je sais maintenant ce qu'il faut faire pour mériter la réputation de bon citoyen. » Ah, rassembler le peuple pour assassiner un homme qui vous déplaît, vous appelez ça être animé de l'amour de la patrie. Alors j'en reviens au sentiment de Lorrain que j'ai eu tort de combattre. À partir d'aujourd'hui, je vais faire du patriotisme comme vous l'entendez et j'expérimenterai sur Simon. Citoyen Maurice, répondit le président, Simon a peut-être moins de tort que toi dans cette affaire. Il a découvert une conspiration, sans y être appelé par ses fonctions, là où tu n'as rien vu, toi dont c'était le devoir de la découvrir. De plus, tu as des connivences, de hasard ou d'intention, lesquelles nous n'en savons rien, mais tu en as avec les ennemis de la nation. Moi, dit Maurice, ah, voilà du nouveau, par exemple, et avec qui donc, citoyen président? Avec le citoyen Maison Rouge. « Moi, dit Maurice, stupéfait, moi, j'ai des connivences avec le chevalier de Maison Rouge, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais. »« On t'a vu lui parler. »« Moi ?»« Lui serrer la main. »« Moi ?»« Oui. »« Où cela ? Quand cela ?»« Citoyen président, dit Maurice, emporté par la conviction de son innocence. »« Tu en as menti. »« Ton zèle pour la patrie t'emporte un peu loin, citoyen Maurice, dit le président, et tu seras fâché tout à l'heure de ce que tu viens de dire, quand je te donnerai la preuve que je n'ai avancé que la vérité. Voilà trois rapports différents qui t'accusent. Allons donc, dit Maurice, est-ce que vous pensez que je suis assez niais pour croire à votre chevalier de Maison Rouge? Et pourquoi n'y croirais-tu pas? Parce que c'est un spectre de conspirateurs avec lequel vous tenez toujours une conspiration prête pour englober vos ennemis. Lis les dénonciations. Je ne lirai rien, dit Maurice. Je proteste que je n'ai jamais vu le chevalier de Maison Rouge et que je ne lui ai jamais parlé. Que celui qui ne croira pas à ma parole d'honneur vienne me le dire. Je sais ce que j'aurai à lui répondre. Le président haussa les épaules. Maurice, qui ne voulait être en reste avec personne, en fit autant. Il y eut quelque chose de sombre et de réservé pendant le reste de la séance. Après la séance, le président, qui était un brave patriote élevé au premier rang du district par le suffrage de ses concitoyens, s'approcha de Maurice et lui dit « Viens, Maurice, j'ai à te parler. » Maurice suivit le président, qui le conduisit dans un petit cabinet attenant à la chambre des séances. Arrivé là, il le regarda en face et, lui posant la main sur l'épaule, Maurice, lui dit-il, j'ai connu, j'ai estimé ton père, ce qui fait que je t'estime et que je t'aime. Maurice, crois-moi, tu cours un grand danger en te laissant aller au manque de foi, première décadence d'un esprit vraiment révolutionnaire. Maurice, mon ami, dès qu'on perd la foi, on perd la fidélité. Tu ne crois pas aux ennemis de la nation, hein, de là vient que tu passes près d'eux sans les voir et que tu deviens l'instrument de leur complot, sans t'en douter. Que diable, citoyen, dit Maurice, je me connais, je suis homme de cœur, zélé patriote, mais mon zèle ne me rend pas fanatique. Voilà 20 conspirations prétendues que la République signe toutes du même nom. Je demande une fois pour toutes à voir l'éditeur responsable. Tu ne crois pas aux conspirateurs, Maurice, dit le président. Eh bien, dis-moi, crois-tu à l'œillet rouge pour lequel on a guillotiné hier la fille Tison? Maurice tressaillit. Crois-tu au souterrain pratiqué dans le jardin du temple et communiquant avec la cave de la citoyenne Plumeau à une certaine maison de la rue de la Corderie? Non, dit Maurice. Alors fais comme Thomas l'apôtre, va voir. Ah, je ne suis pas de garde au temple, on ne me laissera pas entrer. Tout le monde peut entrer au temple maintenant. Comment cela? Et lis ce rapport, puisque tu es si incrédule, je ne procéderai plus que par pièces officielles. Comment? S'écria Maurice, lisant le rapport. C'est à ce point. Mais continue. On transporte la reine à la conciergerie. Et crois-tu que ce soit sur un rêve, sur ce que tu appelles une imagination, sur une bile visée, que le comité de salut public ait adopté une si grave mesure? Cette mesure a été adoptée, mais elle ne sera pas exécutée, comme une foule de mesures que j'ai vues prendre, voilà tout. Lis donc jusqu'au bout, dit le président. Et il lui présenta un dernier papier. Le récépissé de Richard, le geôlier de la conciergerie, s'écria Maurice. Elle y a été écrouée à 2 heures. Cette fois, Maurice demeura pensif. La commune, tu le sais, continua le président, agit avec des vues profondes. Elle s'est creusée un sillon large et droit. Ces mesures ne sont pas des enfantillages. Elle a mis en exécution le principe de Cromwell. Il ne faut frapper les rois qu'à la tête. Lis cette note secrète du ministre de la police. Maurice lut. Attendu que nous avons la certitude que le ci-devant chevalier de Maison Rouge est à Paris, qu'il y a été vu en différents endroits, qu'il a laissé des traces de son passage en plusieurs complots heureusement déjoués, j'invite tous les chefs de section à redoubler de surveillance. Eh bien, demanda le président. Il faut que je te croie, citoyen président, s'écria Maurice. Et il continua. Signalement du chevalier de Maison Rouge. 5 pieds 3 pouces, cheveux blonds, yeux bleus, nez droit, barbe châtaine, menton rond, voix douce, main de femme. 35 à 36 ans. Au signalement, une lueur étrange passa à travers l'esprit de Maurice. Il songea à ce jeune homme qui commandait la troupe des muscadins qui les avait sauvés la veille, Lorrain et lui, et qui frappait si résolument sur les Marseillais avec son sabre de sapeur. Mordieu, murmura Maurice, serait-ce lui? En ce cas, la dénonciation qui dit qu'on m'a vu lui parler ne serait point fausse. Seulement, je ne me rappelle pas lui avoir serré la main. Ne joue pas ainsi ta popularité, Maurice, continua le président. La popularité aujourd'hui, c'est la vie. L'impopularité, prends-y garde, c'est le soupçon de trahison et le citoyen lindé ne peut pas être soupçonné d'être un traître. Maurice n'avait rien à répondre à une doctrine qu'il sentait bien être la sienne. Il remercia son vieil ami et quitta la section. Ah, murmura-t-il, respirons un peu. Ah, c'est trop de soupçons et de luttes. Allons droit au repos, à l'innocence et à la joie. Allons à Geneviève. Et Maurice prit le chemin de la vieille rue Saint-Jacques. Lorsqu'il arriva chez le maître tanneur, Dixmer et Morand soutenaient Geneviève en proie à une violente attaque de nerfs. Aussi, au lieu de lui laisser l'entrée libre comme d'habitude, un domestique lui barra-t-il le passage. Annonce-moi toujours, dit Maurice inquiet, et si Dixmer ne peut pas me recevoir en ce moment, je me retirerai. Le domestique entra dans le petit pavillon, tandis que lui, Maurice, demeurait dans le jardin. Il lui sembla qu'il se passait quelque chose d'étrange dans la maison. Les ouvriers tanneurs n'étaient point à leur ouvrage et traversaient le jardin d'un air inquiet. Dixmer revint lui-même jusqu'à la porte. « Entrez, dit-il, cher Maurice, entrez, vous n'êtes pas de ceux pour qui la porte est fermée. »« Et qu'y a-t-il donc ?» demanda le jeune homme. « Ah, Geneviève est souffrante, dit Dixmer, ah, plus que souffrante, elle délire. »« Ah, mon Dieu !» s'écria le jeune homme, ému de retrouver là encore le trouble et la souffrance. « Et qu'a-t-elle donc ?»« Ah, vous savez, mon cher, reprit Dixmer, aux maladies des femmes, personne ne connaît rien, et surtout le mari. » Geneviève était renversée sur une espèce de chaise longue. Près d'elle était Morand, qui lui faisait respirer des sels. « Eh bien ?» demanda Dixmer. « Ah, toujours la même chose !» reprit Morand. « Héloïse, Héloïse !» murmura la jeune femme à travers ses lèvres blanches et ses dents serrées. « Héloïse ?» répéta Maurice avec étonnement. « Eh, mon Dieu, oui !» reprit vivement Dixmer. « Geneviève a eu le malheur de sortir hier et de voir passer cette malheureuse charrette avec une pauvre fille nommée Héloïse, que l'on conduisait à la guillotine. Depuis ce moment, elle a eu 5 ou 6 attaques de nerfs et ne fait que répéter ce nom. Ce qui l'a frappé surtout, c'est qu'elle a reconnu dans cette fille la bouquetière qui lui a vendu les œillets que vous savez. Certainement que je le sais, puisqu'ils ont failli me faire couper le cou. Oui, nous avons tous su cela, cher Maurice, et croyez bien que nous avons été, on ne peut pas plus effrayés, mais Morand était à la séance et il vous a vu sortir en liberté. Ah, silence, dit Maurice, la voilà qui parle encore, je crois. Oh, des mots entrecoupés, inintelligibles, reprit Dixmer. Ah, Maurice, murmura Geneviève, ils vont tuer Maurice. À lui, chevalier, à lui. Un silence profond succéda à ces paroles. Maison Rouge, murmura encore Geneviève, Maison Rouge. Maurice se sentit comme un éclair de soupçon, mais ce n'était qu'un éclair. D'ailleurs, il était trop ému de la souffrance de Geneviève pour commenter ses dernières paroles. « Avez-vous appelé un médecin ? » demanda-t-il. « Oh, ce ne sera rien, » reprit Dixmer, un peu de délire, voilà tout. Et il serra si violemment le bras de sa femme que Geneviève revint à elle et ouvrit, en jetant un léger cri, ses yeux qu'elle avait constamment tenus fermés jusque-là. « Ah, vous voilà tous, dit-elle, et Maurice avec vous. Oh, je suis heureuse de vous voir, mon ami. Si vous saviez comme j'ai... » Elle se reprit. « Comme nous avons souffert depuis 2 jours. »« Oui, dit Maurice, nous voilà tous. Rassurez-vous donc, et ne vous faites plus des terreurs pareilles. Il y a surtout un nom, voyez-vous, qu'il faudrait vous déshabituer de prononcer, attendu qu'en ce moment, il n'est pas en odeur de sainteté. » « Et lequel ?» demanda vivement Geneviève. « C'est celui du chevalier de Maison Rouge. »« J'ai nommé le chevalier de Maison Rouge, moi ?» dit Geneviève épouvantée. « Ah, sans doute !» répondit Dixmer, avec un rire forcé. « Mais vous comprenez, Maurice, il n'y a rien là d'étonnant, puisqu'on dit publiquement qu'il était complice de la fille Tison, et que c'est lui qui a dirigé la tentative d'enlèvement qui, par bonheur, a échoué hier. » « Je ne dis pas qu'il y a quelque chose d'étonnant à cela, » répondit Maurice. « Je dis seulement qu'il n'a qu'à bien se cacher. »« Et qui ?» demanda Dixmer. « Le chevalier de Maison Rouge, parbleu. La commune le cherche et ses limiers ont le nez fin. »« Ah, pourvu qu'on l'arrête, » dit Morand, « avant qu'il accomplisse quelque nouvelle entreprise qui réussira mieux que la dernière. »« En tout cas, » dit Maurice, « ce ne sera pas en faveur de la reine. »« Et pourquoi cela ?» demanda Morand. Parce que la reine est désormais à l'abri des coups de main. Où est-elle donc ? Demanda Dixmer. À la conciergerie, répondit Maurice. On l'y a transféré cette nuit. Dixmer, Morand et Geneviève poussèrent un cri que Maurice prit pour une exclamation de surprise. Ainsi, vous voyez, continua-t-il, adieu les plans du chevalier de la reine. La conciergerie est plus sûre que le temple. Morand et Dixmer échangèrent un regard qui échappa à Maurice. « Ah, mon Dieu !» s'écria-t-il, « voilà encore Madame Dixmer qui pâlit !»« Ah, Geneviève !» dit Dixmer à sa femme, « il faut te mettre au lit, mon enfant, et tu souffres !» Maurice comprit qu'on le congédiait. Il baisa la main de Geneviève et sortit. Morand sortit avec lui et l'accompagna jusqu'à la vieille rue Saint-Jacques. Là, il le quitta, pour aller dire quelques mots à une espèce de domestique qui tenait un cheval tout sellé. Maurice était si préoccupé qu'il ne demanda pas même à Morand, auquel d'ailleurs il n'avait pas adressé un mot depuis qu'ils étaient sortis ensemble de la maison, qui était cet homme et que faisait là ce cheval. Il prit la rue des Fossés-Saint-Victor et gagna les quais. « C'est étrange, se disait-il tout en marchant, est-ce que mon esprit s'affaiblit, sont-ce les événements qui prennent de la gravité, mais tout m'apparaît grossi comme à travers un microscope. » Et pour retrouver un peu de calme, Maurice présenta son front à la brise du soir et s'appuya sur le parapet du pont. Comme il achevait en lui-même cette réflexion, tout en regardant l'eau couler avec cette attention mélancolique dont on retrouve les symptômes chez tout Parisien pur, Maurice, appuyé au parapet du pont, entendit une petite troupe qui venait à lui d'un pas égal qu'on pourrait être celui d'une patrouille. Il se retourna. C'était une compagnie de la garde nationale qui arrivait par l'autre extrémité. Au milieu de l'obscurité, Maurice crut reconnaître Lorrain. C'était lui, en effet. Dès qu'il l'aperçut, il courut à lui, les bras ouverts. « Enfin !» s'écria Lorrain, « c'est toi, morbleu ! Ah, ce n'est pas sans peine que l'on t'a rejoint !»« Mais puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. » Ah, cette fois, tu ne te plaindras pas, j'espère, je te donne du Racine au lieu de te donner du Lorrain. Mais que viens-tu donc faire ici en patrouille ? Demanda Maurice, que tout inquiété. Ah, je suis chef d'expédition, mon ami. Il s'agit de rétablir sur sa base primitive notre réputation ébranlée. Puis, se retournant vers sa compagnie, « Portez armes ! Présentez armes ! Oh, les armes ! » dit-il. « Ah, là, mes enfants !» Il ne fait pas encore nuit assez. Causez de vos petites affaires, nous allons causer des nôtres. Puis, revenant à Maurice, « J'ai appris aujourd'hui à la section deux grandes nouvelles, » continua Lorrain. « Lesquelles ? La première, c'est que nous commençons à être suspects, toi et moi. »« Ah, je le sais. Après ? Ah, tu le sais ? Oui. » La seconde, c'est que toute cette conspiration à l'œillet a été conduite par le chevalier de Maison-Rouge. Ah, je le sais encore. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la conspiration de l'œillet rouge et celle du souterrain ne faisaient qu'une seule conspiration. Ah, je le sais encore. Alors, passons à une troisième nouvelle. Tu ne la sais pas, celle-là, j'en suis sûr. Nous allons prendre ce soir le chevalier de Maison-Rouge. Prendre le chevalier de Maison-Rouge ? Oui. Tu t'es donc fait gendarme ? Ah non, mais je suis patriote. Un patriote se doit à sa patrie. Or, ma patrie est abominablement ravagée par ce chevalier de Maison Rouge qui fait complot sur complot. Or, la patrie m'ordonne à moi, qui suis un patriote, de la débarrasser du susdit chevalier de Maison Rouge qui la gêne horriblement, et j'obéis à la patrie. « C'est égal, dit Maurice, il est singulier que tu te charges d'une pareille commission. » « Ah, je ne m'en suis pas chargé, on m'en a chargé. Mais d'ailleurs, je dois dire que je l'use brigué, la commission. Il nous faut un coup éclatant pour nous réhabiliter, attendu que notre réhabilitation, c'est non seulement la sécurité de notre existence, mais encore le droit de mettre à la première occasion 6 pouces de lame dans le ventre de cet affreux Simon. » « Mais comment a-t-on su que c'était le chevalier de Maison Rouge qui était à la tête de la conspiration du souterrain ?»« Ah, ce n'est pas encore bien sûr, mais on le présume. »« Ah, vous procédez par induction. Nous procédons par certitude. »« Comment arranges-tu tout cela, voyons, car enfin... »« Écoute bien. »« Je t'écoute. » À peine ai-je entendu crier « Grande conspiration découverte par le citoyen Simon, cette canaille de Simon, il est partout, ce misérable, que j'ai voulu juger de la vérité par moi-même. Or, on parlait d'un souterrain. Existe-t-il ? Oh, il existe, je l'ai vu. Vu de mes deux yeux, vu ce qui s'appelle vu. Tiens, pourquoi ne siffles-tu pas ? Ah, parce que c'est du Molière et que, je te l'avoue d'ailleurs, les circonstances me paraissent un peu graves pour plaisanter. Eh bien, de quoi plaisantera-t-on alors si on ne plaisante pas des choses graves ? Tu dis donc que tu as vu Ah, le souterrain, je répète que j'ai vu le souterrain, que je l'ai parcouru et qu'il correspondait de la cave de la citoyenne Plumeau à une maison de la rue de la Corderie, à la maison numéro 12 ou 14, je me rappelle pas bien. Vrai, Lorrain, tu l'as parcouru dans toute sa longueur et, ma foi, je t'assure que c'était un boyau fort joliment taillé. De plus, il était coupé par trois grilles de fer que l'on a été obligé de déchausser les unes après les autres, mais qui, dans le cas où les conjurés auraient réussi, leur eussent donné tout le temps, en sacrifiant trois ou quatre des leurs, de mettre Madame Veuve Capet en lieu de sûreté. Heureusement, il n'en est pas ainsi, et cet affreux Simon a encore découvert celle-là. Mais il me semble, dit Maurice, que ceux qu'on aurait dû arrêter d'abord étaient les habitants de cette maison de la rue de la Corderie. Ah, c'est ce que l'on aurait fait aussi si l'on n'eût pas trouvé la maison parfaitement dénuée de locataires. Mais enfin, cette maison appartient à quelqu'un. Oui, à un nouveau propriétaire, mais personne ne le connaissait. On savait que la maison avait changé de maître depuis 15 jours ou 3 semaines, mais voilà tout. Les voisins avaient bien entendu du bruit, mais comme la maison était vieille, ils avaient cru qu'on travaillait aux réparations. Quant à l'autre propriétaire, il avait quitté Paris. J'arrivais sur ces entrefaites. Pour Dieu, dis-je à Santerre en le tirant à part, vous êtes tous bien embarrassés. Ah, c'est vrai, répondit-il, nous le sommes. Cette maison a été vendue, n'est-ce pas? Oui, il y a 15 jours. 15 jours ou 3 semaines. Vendue par-devant notaire. Oui. Eh bien, il faut chercher chez tous les notaires de Paris, savoir lequel a vendu cette maison et se faire communiquer l'acte. On verra dessus le nom et le domicile de l'acheteur. Ah, la bonne heure, c'est un conseil, cela, dit Santerre. Et pourtant, voilà un homme qu'on accuse d'être un mauvais patriote. Ah, Lorrain, Lorrain, je te réhabiliterai ou le diable me brûle. Bref, continua Lorrain, ce qui fut dit fut fait. On chercha le notaire, on retrouva l'acte, et sur l'acte, le nom et le domicile du coupable. Alors Santerre m'a tenu parole, il m'a désigné pour l'arrêter. Et cet homme, c'était le chevalier de Maison Rouge. Hein, non pas, son complice seulement, c'est-à-dire probablement. Mais alors comment dis-tu que vous allez arrêter le chevalier de Maison Rouge? Nous allons les arrêter tous ensemble. D'abord, connais-tu ce chevalier de Maison Rouge? À merveille. Tu as donc son signalement? Mais parbleu, Santerre me l'a donné. 5 pieds 2 ou 3 pouces, cheveux blonds, yeux bleus, nez droit, barbe châtaine. D'ailleurs, je l'ai vu. Et quand? Aujourd'hui même. Tu l'as vu? Et toi aussi? Maurice tressaillit. Ce petit jeune homme blond qui nous a délivrés ce matin, tu sais, celui qui commandait la troupe des muscadins qui tapait si dur. C'était donc lui? Demanda Maurice. Ah, lui-même. On l'a suivi et on l'a perdu dans les environs du domicile de notre propriétaire de la rue de la Corderie, de sorte qu'on présume qu'ils logent ensemble. Mais il me semble, Lorrain, ajouta Maurice, que si tu arrêtes ce soir celui qui nous a sauvés ce matin, tu manques quelque peu de reconnaissance. Allons donc, dit Lorrain, est-ce que tu crois qu'il nous a sauvés pour nous sauver? Et pourquoi donc? Pas du tout. Ils étaient embusqués là pour enlever la pauvre Héloïse Tison quand elle passerait. Nos égorgeurs les gênaient. Ils sont tombés sur nos égorgeurs. Nous avons été sauvés par contre-coup. Or, comme tout est dans l'intention, et que l'intention n'y était pas, je n'ai pas à me reprocher la plus petite ingratitude. D'ailleurs, vois-tu, Maurice, le point capital, c'est la nécessité. Or, il y a nécessité à ce que nous nous réhabilitions par un coup d'éclat. J'ai répondu de toi. À qui? À Santerre, il sait que tu commandes l'expédition. Comment cela? Es-tu sûr d'arrêter les coupables? A-t-il dit. Oui, ai-je répondu, si Maurice en est. Mais es-tu sûr de Maurice? Depuis quelque temps, il t'y est dit. Ceux qui disent cela se trompent. Maurice ne t'y est dit pas plus que moi. Et tu en réponds comme de moi-même. Alors j'ai passé chez toi, mais je ne t'ai pas trouvé. J'ai pris ensuite ce chemin, d'abord parce que c'était le mien, et ensuite parce que c'était celui que tu prends d'ordinaire. Enfin, je t'ai rencontré, te voilà, en avant, marche la victoire, en chantant, nous ouvre la barrière. Mon cher Lorrain, je suis désespéré, mais je ne me sens pas le moindre goût pour cette expédition. Tu diras que tu ne m'as pas rencontré. Impossible, tous nos hommes t'ont vu. Eh bien, tu diras que tu m'as rencontré et que je n'ai pas voulu être des vôtres. Impossible encore. Et pourquoi cela? Parce que cette fois, tu ne seras pas un tiède, mais un suspect. Et tu sais ce qu'on en fait des suspects. On les conduit sur la place de la Révolution et on les invite à saluer la statue de la Liberté. Seulement, au lieu de saluer avec le chapeau, ils saluent avec la tête. Eh bien, Lorrain, il arrivera ce qu'il pourra, mais en vérité, cela te paraîtra sans doute étrange, ce que je vais te dire là. Lorrain ouvrit de grands yeux et regarda Maurice. Eh bien, reprit Maurice, je suis dégoûté de la vie. Lorrain éclata de rire. Ah bon, dit-il, nous sommes en bisbille avec notre bien-aimé, et cela nous donne des idées mélancoliques. Allons, bel Amadis, redevenons un homme, et de là nous passerons aux citoyens. Moi, au contraire, je ne me suis jamais senti meilleur patriote que lorsque j'étais en brouille avec Artémise. À propos, sa divinité, la déesse raison, te dit des millions de choses gracieuses. Tu la remercieras de ma part. Adieu, Lorrain. Comment adieu? Oui, je m'en vais. Et où vas-tu? Chez moi, parbleu. Maurice, tu te perds. Je m'en moque. Maurice, réfléchis, ami, réfléchis. Oh, c'est fait. Je ne t'ai pas tout répété, mais tout quoi? Tout ce que m'avait dit Santerre. Que t'a-t-il dit? Mais quand je t'ai demandé comme chef de l'expédition, il m'a dit, prends garde. À qui? À Maurice. À moi? Oui, Maurice, a-t-il ajouté, va bien souvent dans ce quartier-là. Dans quel quartier? Dans celui de Maison Rouge. Comment, s'écria Maurice, c'est par ici qu'il se cache? Mais on le présume du moins, puisque c'est par ici que loge son complice présumé, l'acheteur de la maison de la rue Lacorderie. Faubourg Victor? Demanda Maurice. Oui, Faubourg Victor. Et dans quelle rue du Faubourg? Dans la vieille rue Saint-Jacques. Ah mon Dieu, murmura Maurice, ébloui comme par un éclair, et il porta sa main à ses yeux. Puis, au bout d'un moment, et comme si, pendant cet instant, il avait appelé tout son courage, « Son état, dit-il, Maître Tanneur, et son nom, Dixmer. » « Tu as raison, Lorrain, dit Maurice, comprimant jusqu'à l'apparence de l'émotion par la force de sa volonté. « Je vais avec vous. »« Hé, tu fais bien, es-tu armé ?»« Oh, j'ai mon sabre, comme toujours. »« Prends encore ces deux pistolets. »« Et toi ?»« Moi, j'ai ma carabine. » Portez armes, armes, bras, en avant, marche! La patrouille se remit en marche, accompagnée de Maurice qui marchait près de Lorrain et précédé d'un homme vêtu de gris qui la dirigeait. C'était l'homme de la police. De temps en temps, on voyait se détacher des angles des rues ou des portes des maisons une espèce d'ombre qui venait échanger quelques paroles avec l'homme vêtu de gris. C'était des surveillants. On arriva à la ruelle. L'homme gris n'hésita pas un seul instant, il était bien renseigné, il prit la ruelle. Devant la porte du jardin par laquelle on avait fait entrer Maurice garrotté, il s'arrêta. « C'est ici, dit-il. »« C'est ici quoi ?» demanda Lorrain. « C'est ici que nous trouverons les deux chefs. » Maurice s'appuya au mur, il lui sembla qu'il allait tomber à la renverse. « Maintenant, dit l'homme gris, il y a trois entrées. L'entrée principale, celle-ci, est une entrée qui donne dans un pavillon. » J'entrerai avec 6 ou 8 hommes par l'entrée principale. Gardez cette entrée ici avec 4 ou 5 hommes et mettez 3 hommes sûrs à la porte du pavillon. Moi, dit Maurice, je vais passer par-dessus le mur et je veillerai dans le jardin. À merveille, dit Maurice, d'autant plus que, de l'intérieur, tu nous ouvriras la porte. Volontiers, dit Maurice, mais n'allez pas dégarnir le passage et venir sans que je vous appelle. Tout ce qui se passera dans l'intérieur, je le verrai du jardin. « Tu connais donc la maison ?» demanda Lorrain. « Autrefois, j'ai voulu l'acheter. » Lorrain embusqua ses hommes dans les angles des haies, dans les encoignures des portes, tandis que l'agent de police s'éloignait avec 8 ou 10 gardes nationaux pour forcer, comme il l'avait dit, l'entrée principale. Au bout d'un instant, le bruit de leurs pas s'était éteint sans avoir, dans ce désert, éveillé la moindre attention. Les hommes de Maurice étaient à leur poste et s'effaçaient de leur mieux. On eût juré que tout était tranquille et qu'il ne se passait rien d'extraordinaire dans la vieille rue Saint-Jacques. Maurice commença donc d'enjamber le mur. « Attends, dit Lorrain. Quoi ? Et le mot d'ordre ? Ah, c'est juste. Œillet et souterrain, arrête tous ceux qui ne te diront pas ces deux mots. Laisse passer tous ceux qui te les diront. Voilà la consigne. Merci, dit Maurice. Et il sauta du haut du mur dans le jardin. »